Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirimzian, Antoine Grenier.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Mondial Sport petit format du samedi. Place d'abord au CHAN 2018, terrain de jeu continental et privilégié des footballeurs africains locaux. Le coup d'envoi de la 5e édition, c'est en ce moment à Casablanca où le Maroc affronte la Mauritanie. Le point sur le match dans un instant. La Ligue 1 est de retour, 20e journée réussie pour Marseille à Rennes. Le Real, lui, coulé en Liga par le sous-marin jaune Villarreal et le nouveau contrat mirobolant de Lionel Messi avec le Barça, 100 millions d'euros par an quand la peur de perdre sa star vous rend prêt à tout. Les dessous d'une négociation hors limite révélée en France par le site en ligne Mediapart. Les jeunes Camerounaises en quête d'une place à la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans cet été en France. Début du dernier tour éliminatoire demain contre le Ghana. Et puis en fin d'émission, la 5e journée de la Coupe d'Europe de rugby. Clermont, La Rochelle et Montpellier ont été battus.
RFI, Radio France Internationale.
Casablanca, première courte escale de ce Mondial Sport, l'une des quatre villes hôtes du CHAN 2018. La compétition continentale de football réservée aux joueurs africains évoluant dans leur pays. Antoine, bonsoir d'abord.
Bonsoir Christophe.
Avec en ce moment même le match d'ouverture.
Maroc-Mauritanie au stade Mohamed V de Casablanca. Entrée en matière obligatoirement à réussir pour un pays hôte qui ambitionne de remporter ce CHAN. Christophe Jousset, vous êtes notre envoyé spécial. On approche de la fin du match. Où en est-on exactement ?
83e minute de jeu, Antoine, et le Maroc mène 3-0 contre la Mauritanie. Un résultat pour le moment logique sur l'ensemble du match, mais le premier but a vraiment tardé à venir pour les Marocains face à la résistance farouche des Mourabitoun qui se sont arc-boutés longtemps. L'ouverture de score est intervenue à la 66e minute par El Kaabi qui a signé un doublé avant de sortir et le troisième but entre-temps avait été inscrit par El Haddad, le milieu offensif du Wydad de Casablanca, le champion d'Afrique.
Christophe Jousset, on revient vers vous dès le coup de sifflet final pour revenir sur ce match d'ouverture.
Allez, on passe maintenant au crible, les journées de championnat en Europe. Si la Première Ligue ne s'est jamais vraiment arrêtée, comme d'habitude, et si la Serie A italienne fait relâche ce week-end, on a repris le fil de la saison en Espagne, en Allemagne et en France avec la 20e journée de Ligue 1. Et 6 matchs au menu. Cédric Oliveira, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Et principal enseignement dans cette soirée, Marseille qui démarre 2018 comme il a terminé l'année précédente.
Oui, l'OM qui a confirmé son excellente dynamique de la fin 2017. Troisième victoire en 4 matchs de Ligue 1 pour les hommes de Rudy Garcia. Les Phocéens qui sont allés s'imposer à Rennes 3-0, fort logiquement après une prestation plutôt aboutie. Et même si Rennes a eu quelques occasions, Valère Germain et Morgan Sanson ont permis aux Marseillais de mener 2-0 à la pause avant que Florian Thauvin alourdisse la marque en fin de match. Succès 3-0 pour l'OM qui compte bien lutter pour une place sur le podium et ce jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, c'est l'ambition du capitaine et gardien de but Steve Mandanda.
On a fait une bonne prestation maintenant. On a fait ce qu'il fallait pour l'emporter 3-0. Ça a été sur l'aspect défensif, on a été solide. Offensivement, on a été assez réaliste et on a eu de bonnes actions. On a bien combiné et voilà, c'est un bon match de notre part. Je crois que c'est l'une des rares fois où on joue un peu avant tout le monde. Donc c'est bien, on gagne. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est d'enchaîner les victoires et puis de rester collé. Voilà, aujourd'hui, on a la chance de recoller aux deux autres devant nous, même si Paris est loin devant. Donc nous, on fait ce qu'il faut pour rester là.
Le gardien de but marseillais, Steve Mandanda, au classement l'OM est quatrième, mais revient à hauteur de Lyon qui joue demain et à un point de Monaco qui reste deuxième.
Deuxième, la SM est incapable de dominer Montpellier.
Il faut dire que le club du Rocher était privé de Falcao, son buteur fétiche, le Colombien déjà auteur de 15 buts cette saison avec le Sénégalais Keita Baldé en pointe. Les Monégasques n'ont pas réussi à percer le verrou montpelliérain. 0-0 à la Mosson, malgré quelques occasions pour les Monégasques. La SM reste donc deuxième à 8 points du PSG mais avec seulement un point d'avance sur un duo composé de Lyon et Marseille.
Et notez également Cédric, la bouffée d'oxygène pour Bordeaux.
Les Girondins qui restaient sur 4 défaites en Ligue 1, l'ont enfin emporté à 3. Un but de Gaëtan Laborde qui a donc fêté son retour après une absence de plusieurs semaines pour cause de blessure. Une victoire qui pourrait aussi sauver la tête de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. Bordeaux est 13e, juste devant Lille qui va mieux également. Le LOSC vainqueur à Caen 1-0 grâce à l'Ivoirien Nicolas Pépé, son 5e but de la saison. 1-0, c'est le score de la soirée qui a aussi permis à Nice de dominer Amiens. Enfin, Metz a arraché le match nul 1 par partout à Dijon malgré l'ouverture du score du Cap-Verdien Julio Tavares.
Les Messins qui peuvent croire un incroyable retour.
Oui, ils sont encore bons derniers, mais avec 12 points, ils comptent maintenant 7 points de retard sur Toulouse, le premier barragiste, le TFC qui se rendra ce dimanche à Saint-Étienne. Lyon accueillera Angers, enfin Nantes recevra le PSG, dernier match de cette 20e journée. Le PSG qui jouera sans Neymar préservé, mais avec Edinson Cavani, l'Uruguayen qui fait son grand retour dans le groupe parisien.
Merci beaucoup Cédric. De l'autre côté de la Manche, la 23e journée de Première Ligue, dominée par un duel demain entre Liverpool et le leader incontestable Manchester City. Chelsea avait l'occasion de passer la nuit à la deuxième place, mais les Blues ont calé à Stamford Bridge face à Leicester 0-0. À noter aussi le carton de Tottenham à domicile face à Everton 4-0 avec un Harry Kane toujours en pleine forme. Il a réussi un doublé. La Bundesliga, elle, a également repris son cours et ses habitudes, comme par exemple une victoire du Bayern Munich en ouverture de la 18e journée. C'était hier, succès 3-1 sur le terrain du Bayer Leverkusen grâce à Javi Martinez, Franck Ribéry et James Rodriguez. Les Bavarois comptent 13 points d'avance sur Leipzig qui a fait la bonne opération en s'imposant chez lui face à Schalke 04, 3-1 avec une ouverture de la marque signée du Guinéen Naby Keita. Un autre champion en titre, lui, va décidément pas très fort. Le Real Madrid, et c'est l'info de la journée, a perdu cet après-midi à domicile, qui plus est devant Villarreal, 1-0. On y reviendra plus en détail demain. Mais sachez que cette défaite peut mettre les Merengues à 19 longueurs du FC Barcelone si les Catalans l'emportent ce dimanche à la Real Sociedad. Le Barça, dans l'actualité également, grâce à son cher, très très cher Lionel Messi, indispensable au club, à tel point qu'il était prêt à faire tout pour le garder, ce que le joueur et son entourage ont très bien compris. Constat édifiant à la lecture de l'enquête du site en ligne français Mediapart qui révèle, sur la base des Football Leaks, ces millions de documents secrets sur les coulisses de l'industrie du football décortiqués depuis décembre 2016, comment la mégastar argentine, que le Real a d'ailleurs tenté de débaucher il y a quelques années, est devenue aujourd'hui le joueur le mieux payé du monde à l'occasion de la prolongation de son contrat jusqu'en 2021, plus de 100 millions de dollars par an, accompagné d'engagements tout aussi incroyables en matière fiscale. Et Yann Philippin, notre confrère de Mediapart, détaille les dessous de ce contrat phénoménal.
C'est un contrat hors norme, du jamais vu dans l'histoire du foot. Hein. Pour la première fois, un joueur qui gagne plus de 100 millions d'euros, 104 millions d'euros par an minimum, hein, 122 millions avec les primes. Pour vous donner une idée, ça fait presque 12 000 euros par heure qui passe. Et la raison pour laquelle il a eu ces émoluments totalement extravagants, c'est parce qu'il a un père qui est aussi son agent, qui est extrêmement dur en affaires. Et étant donné que le Barça, le FC Barcelone, s'était fait piquer Neymar par le PSG, en fait, le Barça a considéré qu'il n'avait pas le choix, qu'il pouvait pas se permettre de perdre Messi. Et du coup, ils ont été prêts à tout. Et comme en face, il y avait des gens très durs en affaires, et bien ils ont fait exploser tous les compteurs.
Comment se décomposait ce contrat qui avait été proposé à la signature?
Alors, c'est assez simple. Sur les 100 millions, il y a un salaire fixe qui est de 70 millions d'euros par an. Et en fait, ce qui fait gonfler énormément la facture, ce sont les bonus. C'est-à-dire, il y a 130 millions de bonus en plus. Il y a une prime de signature et une prime de loyauté lissée sur 4 ans. On arrive comme ça aux 100 millions d'euros.
Vous racontez également dans cet article que le Real Madrid a tenté de récupérer Lionel Messi. C'était en juin 2013. Ils ont échafaudé un scénario complètement fou pour essayer de récupérer les faveurs de Messi.
Oui, donc on est en juin 2013. Le Real Madrid veut absolument débaucher Messi. Ils lui font une offre folle, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer 250 millions d'euros au Barça pour payer sa clause de départ. Donc ce qui aurait été le transfert le plus cher de tous les temps. Et ils sont prêts aussi à lui offrir un salaire extrêmement élevé, c'est-à-dire c'était 23 millions net, c'est-à-dire ils étaient prêts même à prendre en charge tous ses impôts. Et surtout, ils ont dit à la famille de Georges Messi, donc à Georges Messi son agent, on vous laisse 4 jours pour réfléchir. Et là, pendant ces 4 jours, ils ont prévu de louer 2 jets privés. Un premier jet privé pour amener le contrat à la famille de Messi, parce qu'ils étaient en vacances à l'étranger. Et un deuxième jet privé qui devait servir à convoyer les big boss du Real Madrid sur le lieu de vacances des Messi, les embarquer dans l'avion, négocier dans les airs, et une fois que le contrat aurait été conclu, les ramener sur leur lieu de vacances et repartir à Madrid. Donc un scénario de folie furieuse, mais qui finalement ne s'est pas réalisé, étant donné que Lionel Messi a préféré rester au Barça.
La principale révélation, c'est que Lionel Messi, grâce à sa fondation, il a réussi à optimiser ses revenus en secret, et il a même fait en sorte que le Barça paye pour lui.
Oui, Lionel Messi a fait un montage fiscal que jusqu'ici on n'avait jamais vu au monde du foot. On sait que malheureusement pas mal de footballeurs trichent sur leurs revenus de sponsoring, hein, qu'ils expédient dans les paradis fiscaux. Là, ce qu'il a fait, Lionel Messi, c'est qu'il a optimisé sur les versements que fait le Barça à sa fondation. C'est-à-dire qu'il a fait payer ses dons à sa fondation directement par son club, ce qui a généré de très gros avantages fiscaux, hein, en millions d'euros, et des avantages fiscaux qui ont été jugés indus, anormales par le fisc. Pour résumer, ça veut dire que cet avantage qui conduisait l'État espagnol, donc les contribuables espagnols, à subventionner la fondation Lionel Messi et à réduire ses impôts. Et le scandale dans le scandale, c'est que le fisc a eu vent de cela, et Lionel Messi a dû régulariser sa situation, et c'est pas lui qui a payé, c'est le Barça. Pourquoi ? Parce que manifestement, Lionel Messi ou son entourage ne voulait pas payer, et comme le Barça voulait absolument le garder, le Barça a réglé l'ardoise fiscale à sa place pour un montant colossal, vu que l'ardoise fiscale c'était 12 millions d'euros, mais comme il faut que Messi ait 12 millions en net, ça a coûté 23 millions d'euros bruts au Barça. Donc imaginez, c'est quelque chose qui, je pense, peut parler à tout le monde, que vous ayez une amende à cause du code de la route, ou que vous ayez une amende fiscale parce que vous avez fraudé le fisc, jamais votre employeur, l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé, ne va payer cette amende à votre place. Bah, quand on s'appelle Lionel Messi, c'est possible.
D'ailleurs, le Barça a inclus quand même des garde-fous dans le nouveau contrat.
Oui, c'est la troisième révélation de notre enquête, qui est en fait un complément de révélations qui était déjà paru dans la presse et dont on apporte des éléments nouveaux. C'est qu'il y a des doutes sur la gestion de la fondation de Lionel Messi, qu'il y a eu des donateurs à qui l'entourage du joueur a demandé de verser de l'argent sur des comptes offshore dans les paradis fiscaux. L'agrément de sa fondation a été refusé 2 fois en Espagne, ce qui est quand même bizarre. On voit aussi qu'il y a des frais de gestion qui sont très élevés et qui ne sont pas publiés. Donc il y a des doutes autour de la gestion de cette fondation. Et suite justement à cette affaire fiscale, le Barça a préféré prendre les devants, a signé un nouveau contrat avec la fondation de Messi, donc a accepté quand même de continuer à donner de l'argent, avec des clauses drastiques où en gros ils peuvent tout savoir sur ce que devient leur argent. Ils seraient réservés le droit de nommer leur propre coordinateur pour coordonner ce qui se passe sur le terrain et être vraiment sûr de comment leur argent est dépensé et si ça va bien servir à aider les enfants. Et
Yann Philippin du site en ligne Mediapart. Jorge Messi a noté, le père de Lionel n'a pas souhaité répondre aux questions du consortium européen de journalistes dont fait partie Mediapart et qui a analysé ces documents du Football Leaks. Retour à Casablanca pour le match d'ouverture du Chan entre le Maroc et la Mauritanie. C'est terminé ou peu s'en faut au stade Mohamed V, Antoine.
On joue effectivement les derniers instants et on rejoint tout de suite Christophe Jousset, notre envoyé spécial à Casablanca. Christophe, je le disais, le coup de sifflet final est imminent et les Marocains ont eu le temps, entre le moment où on vous a eu tout à l'heure et maintenant, d'inscrire un nouveau but.
Oui, c'est même terminé, Antoine, il y a quelques secondes, avec cette victoire 4-0 pour le Maroc face à la Mauritanie. C'est Ben Sharki, Achraf Ben Sharki, vous savez, l'homme qui a été le principal artisan du parcours victorieux du Wydad de Casablanca en Ligue des Champions, dans la dernière Ligue des Champions, qui a parachevé cette victoire marocaine qui a mis longtemps à venir, hein, même si la différence entre les équipes, la différence de niveau s'est vue rapidement, avec des Mauritaniens arc-boutés sur leur défense, quasiment une ligne de 5 défenseurs hein, dans ce début de match. En tout cas, quand la Mauritanie n'avait pas le ballon, ce qui était, il faut bien le dire, le plus souvent, la situation la plus fréquente, eh bien, la Mauritanie a réussi à tenir, par manque de justesse des Marocains hein, aussi, il faut bien le dire, ils étaient peut-être un petit peu crispés devant leur public. Il y avait 36 000 spectateurs pour cette ouverture du Chan ici à Casablanca, et il a fallu patienter longtemps donc pour que les Marocains puissent finalement tromper ce Souleymane, le gardien Souleymane, qui a fait un bon match pendant une heure. Il a été deux fois décisif en début de deuxième période face au même homme, face à Saïdi, avec des parades dont la deuxième notamment tenante, presque miraculeuse, face à Saïdi à bout portant. Et puis, bah, 5 minutes plus tard, donc ça a été le début de l'efficacité, si on peut dire, pour le Maroc, lancé dans la surface par une déviation peut-être volontaire d'un coéquipier, la pointe de l'attaque marocaine, El Kaabi, le joueur de la Renaissance sportive de Berkane, a ouvert la marque à la 66e. À la 72e, El Haddad, le joueur du Wydad de Casablanca, a frappé du gauche à l'intérieur de la surface. Souleymane, cette fois, a été clairement pris en faute. Il a touché le ballon, mais il ne l'a pas repoussé. Ça faisait 2-0. Doublé d'El Kaabi à la 80e avec une frappe croisée du gauche dans le petit filet opposé. Et puis donc, dans le temps additionnel, dans les 3 minutes de temps additionnel, Ben Sharkey, qui d'un petit extérieur du gauche, après avoir effacé le gardien sur son contrôle, a parachevé donc cette victoire marocaine qui va donner de l'élan aux Lions de l'Atlas locaux dans leur championnat d'Afrique des Nations.
Un succès du pays hôte donc devant son public, Christophe, et devant un stade rempli, ce qui est plutôt encourageant pour un Chan.
Oui, vous savez, on n'était pas loin d'afficher tout à fait complet. Hein. On peut mettre un peu plus de 40 000 spectateurs dans ce stade Mohamed V qui a été rénové. Et le speaker tout à l'heure nous a annoncé 36 000 spectateurs. On nous avait annoncé aussi que le roi Mohamed VI se viendrait pour la cérémonie d'ouverture. Ce n'est pas lui qui l'a présidé, c'est le prince héritier Moulay Hassan. Et il a dû se galer puisqu'il a vu, comme tout le monde ici, 4 buts du Maroc dans cette deuxième période. Bonne entame évidemment pour le Maroc qui fait figure de favori évidemment dans ce championnat d'Afrique des Nations parce que aussi il a le vent en poupe, parce que ce Chan qui est réservé aux joueurs locaux reflète finalement le niveau des différents championnats locaux, c'est logique, et que le Maroc a forcément un bon championnat national, lui qui vient de gagner notamment la Ligue des Champions africaine. Donc c'est bien parti avec ce Maroc-Mauritanie. Il y aura le deuxième match demain du groupe A, une opposition entre la Guinée et le Soudan, et le coup d'envoi du groupe B dans le même temps.
Christophe Jousset en direct avec nous de Casablanca pour ce match d'ouverture du Chan. Et la première journée du groupe B demain, ce sera Ouganda, Zambie et Côte d'Ivoire, Namibie.
On reste en Afrique, un petit tour par le foot féminin à présent, Antoine, et les éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Le Cameroun sera demain à 180 minutes de sa première Coupe du Monde.
Les Lions affrontent le Ghana au troisième tour des éliminatoires en zone Afrique. Des Camerounaises novices et un peu chanceuses jusqu'ici face à des Ghanéennes bien plus expérimentées. La tâche sera rude, mais la confiance est là, Joël Wedem.
Le Cameroun se retrouve au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine junior après avoir disputé une seule rencontre remportée 9-0 face à la Guinée-Conakry. Les autres matchs ne se sont pas joués du fait des forfaits successifs des Guinéennes pour la rencontre retour et de la Sierra Leone, l'adversaire du second tour. Les Lions joueront dans leurs deux derniers matchs face au Ghana, l'une des meilleures formations africaines qui a déjà participé à 3 Coupes du Monde. Même si les Camerounaises affichent une réelle infériorité du point de vue des performances sur le terrain, l'entraîneur Charles Camden pense qu'il est possible de briser le signe indien.
C'est une très très bonne équipe, une équipe très expérimentée, qui a des individualités avérées, qui a un potentiel énorme. Mais toutefois, il faudrait que nous puissions briser ce signe indien. Il faudrait que nous nous qualifions aussi. Nous jouons devant notre public. Il faudrait que nous nous imposions aussi. Nous avons les moyens pour le faire. Si mes filles jouent au niveau, je les connais, je crois que nous allons sortir victorieux de cette rencontre. Et j'en suis convaincu que ces filles-là peuvent bien le faire.
Pour l'avant-centre, Alexandra Takunda Engolo, l'équipe ayant le meilleur mental remportera la rencontre.
La différence va se faire au niveau d'abord du mental. C'est un match dur. Les gens qui seront fortes, ce sont eux qui vont gagner ce match. Parce que Ghana a l'habitude de se qualifier pour la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Et le Cameroun, c'est la première fois. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout donner pour se qualifier aussi. Si j'ai un message à passer au public camerounais, je dirais que nous leur promettons la victoire. Et nous avons besoin d'eux qu'ils viennent nous supporter, nous aider. Parce que leur présence est très importante pour ce match.
Le ministère des Sports a décidé de la gratuité de l'accès au stade ce dimanche pour une grande mobilisation populaire. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Cameroun-Ghana demain à 15h30, temps universel. Et signalons qu'aujourd'hui, dans ce dernier tour des éliminatoires de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud a été dominée 2-0 chez elle par le Nigeria.
Allez, rapidement les résultats de la 5e journée de la Coupe d'Europe de rugby. Défaite de Montpellier à Exeter 41-10. Défaite également de La Rochelle face à l'Ulster 20-13. Et défaite également de Clermont face aux Anglais de Northampton 34-21.